Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, un patrimoine radiophonique.
En 1982, dans la matinée des autres, Martine Baude s'était intéressée aux rituels et croyances qui entourent la naissance. Dans les années 70-80, en effet, la reproduction de l'espèce gardait encore une part de mystère, et les questions posées à l'époque accompagnaient plutôt un changement des mentalités. Car tout au fond est allé très vite. Prémisse de la contraception médicalisée, 1950. C'est en 1974 qu'en France, tout sera réellement mis en place et que le grand public pourra s'emparer librement de son rapport à la reproduction de l'espèce, avec l'amendement de la loi Neuwirth et la suppression du contrôle en pharmacie, l'accès libre des mineurs munis d'une prescription médicale, l'anonymat des consultations et le remboursement de la pilule par la Sécurité sociale. 4 ans plus tard, en 1978, naissait le premier bébé éprouvette. Aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. La reproduction de l'espèce a levé pratiquement tous ses secrets et les livrera sans doute de plus en plus. Les mythes qui régissaient les anciennes civilisations, y compris la nôtre, n'ont plus vraiment lieu d'être, sauf si, à moins que quelque chose tout de même nous intriguait encore dans cette affaire.
La matinée des autres. Placenta, le compagnon des profondeurs. Une émission de Martine Baude.
Culture, on considère le placenta comme un déchet qu'on élimine rapidement après la naissance. On ne sait pas trop du reste à qui il appartient. On ne sait pas plus du reste ce qu'il devient dans les maternités. Pourtant, ce même déchet était autrefois fortement valorisé. L'Europe traditionnelle le considérait comme le double du nouveau-né. Cette croyance se retrouve encore maintenant, bien loin de l'Europe, en Afrique noire, où le placenta représente le jumeau, le petit frère de l'enfant. C'est qu'au-delà de la vie utérine, il semble garder tous ses pouvoirs sur la vie. De nombreux rites assurent symboliquement sa survie. Rites liés à la terre, à l'eau. Quels sont ces rites? Pourquoi notre société actuelle a-t-elle refoulé ce compagnon des profondeurs dans l'oubli et dans les poubelles? À ces questions répondent Nicole Belmont, ethnologue française, Germaine Yetterlin, ethnologue africaniste, Michel Audan, obstétricien, Bernard Thys, psychanalyste.
Le placenta est un élément de l'œuf. Vous savez que l'œuf comprend à la fois le fœtus et ce qu'on appelle les annexes. Dans le cadre des annexes, il y a le placenta, puisque nous en parlons, mais il y a aussi les membranes, il y a aussi le liquide amniotique, il y a aussi le cordon. C'est cet ensemble qui relie en quelque sorte le fœtus, le futur nouveau-né, à sa mère. Dès le cinquième jour de la constitution de l'œuf, s'individualise un élément qu'on appelle le trophoblaste. C'est donc très précoce. Et ce trophoblaste est à l'origine de ce que sera le placenta, de ce que seront les annexes. Lorsque le trophoblaste sera devenu placenta, lorsque ce qu'on appelle les villosités coriales auront pénétré la muqueuse utérine, eh bien, il y aura encore à ce moment-là une autonomie de la circulation fœtoplacentaire qui se fera pour son propre compte et qui sera indépendante de la circulation maternelle. Toujours cette autonomie persistera. Et elle existe donc depuis le départ. On pourrait souligner une particularité du placenta humain par comparaison au placenta de la plupart des autres espèces animales, c'est l'intimité exceptionnelle dans l'espèce humaine de la fusion entre l'œuf, le chorion, le placenta lui-même, et la muqueuse utérine. Mais dans tous les autres cas, la fusion est beaucoup moins franche. L'ensemble de ce placenta, on pourrait le préciser, pèse souvent 500, 600 grammes. Il est habituel de peser le placenta après la naissance d'un bébé.
C'est donc un organe de la gestation. Si vous aviez à qualifier ses fonctions essentielles, que diriez-vous ?
Organe d'échange entre la mère et l'enfant. Et on peut dire aussi glande endocrine, organe sécrétant des hormones. Certaines de ces hormones, d'ailleurs, ne sont pas spécifiques au placenta, les estrogènes, la progestérone, etc. Mais je pense qu'en disant cela, on n'a pas encore tout dit sur les fonctions du placenta. Il faut aussi parler du placenta en tant que protecteur contre les microbes. La plupart des microbes ne passent pas ou passent très difficilement la barrière placentaire. Par contre, le placenta laisse passer beaucoup les virus. C'est pourquoi on craint tant la rubéole pendant une grossesse. C'est pourquoi on craint l'herpès pendant une grossesse. Il faut aussi parler du placenta, et ça nous rapproche un peu des microbes et des virus, sur le plan immunologique. Il y a toute une activité immunologique qui explique que cet œuf a pu se greffer sur la muqueuse utérine, dans le corps de la mère, sans être rejeté.
La naissance, c'est une coupure qui est portée sur le cordon ombilical et qui sépare l'enfant de quoi ou de qui? Le plus souvent, on dit que la naissance, c'est une séparation de l'enfant et de la mère. Mais en réalité, cette coupure est portée sur le cordon ombilical et sépare l'enfant qui vient de naître de cette part de lui-même qu'est son placenta. À la naissance, ce que l'enfant perd, ce n'est ni sa mère ni son père. Il reste là, périphérique autour de lui. Mais ce qu'il a à perdre, ce qui est la condition de la vie, pour qu'il puisse pousser son premier cri, s'exprimer à l'air libre, respirer et donc vivre, la condition, c'est qu'il perde ses membranes dans lesquelles il était contenu, le liquide amniotique et son placenta. Placenta que, dans certaines civilisations, on décrit comme le double, le compagnon obscur des profondeurs. Placenta, c'est plakos en grec. C'est plaque, cet organe plaqué au fond de l'utérus maternel, qui ressemble un peu à un béret basque, si vous voulez, qui pèse de 500 à 700 grammes, qui est formé de cette amas de toutes les villosités placentaires qui viennent plonger dans les lacs sanguins de l'utérus maternel. Or, à qui appartient ce placenta. De nombreuses mères disent que c'est leur placenta, qu'elles sentent bien que l'enfant est autonome, qu'il a sa vie et qu'il bouge, mais elles disent « quand j'ai perdu mon placenta ». Or, ce placenta fait partie de l'œuf, un peu comme les coquilles, si vous voulez, pour les ovipares. Et c'est le placenta de l'enfant. Placenta dont le plus souvent dans notre civilisation, on ne veut pas parler. Or, qu'est-ce qui se passe dans le monde animal avec ce placenta, chez les mammifères, même chez les herbivores? Il y a dévoration du placenta. Il y a une placentophagie. La femelle se précipite sur le placenta, le dévore, dévore le cordon ombilical, et au moment où le petit pousse son couinement, son cri, elle cesse de dévorer. Mais si vous avez rendu une truie sourde avec des doses massives de streptomycine, elle voit son petit s'agiter sous ses yeux, mais elle dévore le cordon ombilical et elle dévore le petit. Le réflexe de placentophagie n'est pas bloqué par le cri. Le cri dans le monde animal a cette fonction de bloquer la placentophagie maternelle. Et le plus souvent, à la naissance, les animaux ne poussent pas un premier cri. La fonction respiratoire se déclenche. Chez l'humain, c'est différent. À la naissance, le plus souvent, il y a un premier cri. Ce premier cri qui est guetté, attendu et qui est donné comme la preuve de la vie. Et c'est dans ce premier cri que l'enfant va exprimer ce qu'il ressentait en lui. Le plus intime de son être devient projeté à l'extérieur, dans l'extimité en quelque sorte, et il a à s'y reconnaître. C'est sa première manifestation de vivant, s'exprimant, en quelque sorte, non plus par des gestes, mais dans un donné à entendre, dans le monde du signifiant, qui est la préfiguration de cette parole dans laquelle nous nous exprimons. La colonne d'air, modulée diversement, est donnée à entendre et plus simplement à voir.
Je sais qu'il est rituel dans notre culture de se précipiter pour couper le cordon dès que le bébé est né. Je pense que ce n'est qu'un rite, c'est propre à notre culture, mais cette section artificielle du cordon n'est nullement un besoin physiologique. De toute façon, l'interruption de la circulation au niveau du cordon se fera d'elle-même progressivement. Très vite, les petites artères qui vont du cœur du bébé au placenta vont diminuer de calibre. Et au bout d'un certain temps, le cordon cessera de battre, surtout lorsqu'on se rapproche de la vulve. Par contre, la grosse veine ombilicale qui vient du placenta, qui va vers le bébé, mettra peut-être un peu plus de temps à diminuer de calibre et permettra sans doute plus longtemps un passage de sang venant du placenta vers le bébé lorsque l'utérus se contractera au moment du détachement du placenta. On peut dire que respecter la physiologie de l'expulsion du placenta, c'est aussi respecter le cordon, respecter ce qui s'y passe. Et on peut penser que pendant des milliers de millénaires, il n'y a pas eu de professionnel qui venait couper le cordon. Il en est encore ainsi chez les primates, par exemple, où cette troisième phase de l'accouchement, comme on dit dans le monde anglo-saxon, n'est pas perturbée artificiellement. On en vient, si vous voulez, au détachement du placenta, à cette phase de détachement du placenta. Dans notre pratique, je pourrais vous décrire en quelque sorte la scène qui permet de favoriser au mieux ce détachement du placenta et qui en même temps apporte le même maximum de sécurité pour la mère. Parce que vous savez que pour la mère, l'une des phases les plus dangereuses de l'accouchement, c'est l'expulsion du placenta. C'est à ce moment-là que ça peut saigner. Eh bien, pour nous, la meilleure façon d'éviter ces dangers, d'éviter une hémorragie importante, eh bien, c'est ce qu'on observe très souvent dans notre pratique, dans une maternité où on a remis en cause les conditions habituelles de la naissance, où on espère de respecter beaucoup mieux la physiologie de l'accouchement. Je ne peux pas parler de tout l'accouchement, mais enfin, ça nous amène très souvent à avoir des femmes qui terminent leur accouchement dans une position accroupie, soutenue. Eh bien, quand le bébé vient de naître, ce qu'elles font habituellement, c'est qu'elles s'assoient par terre. Elles se retrouvent d'abord avec le bébé entre les jambes, et puis elles prennent leur bébé dans les bras. Eh bien, lorsqu'elles sont dans cette situation, elles sont protégées contre une hémorragie importante lors de l'expulsion du placenta. Elles sont protégées d'abord parce qu'elles sont verticales. Elles sont verticales, ce qui fait que le gros utérus qui pèse lourd n'appuie pas sur la veine cave, ne gêne pas le retour du sang veineux. Vous savez que gêner le retour du sang veineux, c'est favoriser une hémorragie
en amont. C'est comme ça qu'on fait les prises de sang au bras, hein, en mettant un garrot. Bon, donc la verticalité est déjà un élément favorable. Et puis il y a autre chose qui se passe, c'est que la femme assise par terre avec le bébé dans les bras, dans une situation telle qu'elle touche le bébé de façon parfaite, vous voyez, le contact de peau à peau est très étroit, parfait, le croisement des regards est souvent facile, et tout cela entraîne une émotion intense. Ce qui fait que, le plus souvent, après un long contact entre la mère et le bébé dans cette situation, la femme ressent de nouveau des contractions intenses, elle éprouve le besoin d'expulser le placenta, et à ce moment-là, bien souvent, il nous suffit de lui porter de nouveau les épaules, elle se retrouve dans une position accroupie soutenue, et le placenta sort pratiquement de lui-même, parfois même avant que nous ayons nous-mêmes coupé le cordon. Ce n'est jamais pressé. Et nous avons d'ailleurs l'impression que l'absence de section du cordon, ou sa section tardive, est un autre élément qui favorise un détachement facile et peu hémorragique du placenta. Et lorsque cette femme est ainsi verticale, elle expulse le placenta, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le regarde. Le placenta, parce qu'elle est verticale, parce qu'il est accroupi, parce que ce placenta apparaît entre ses jambes, de même qu'à tout de suite elle a vu son bébé qui naissait, et bien parce qu'elle est verticale, elle voit le placenta, elle le regarde, elle l'interroge, elle se pose des questions, elle le touche. Vous voyez. Et cela, ça me paraît très important dans notre société. Vous savez que certains, comme Bernard Thys, ont souligné le fait que dans notre société, on avait oublié cet objet intermédiaire, cet organe intermédiaire entre la mère et le bébé. Eh bien, on peut penser que cet oubli est lié, en fait, à la position horizontale. Lorsque la femme est sur le dos, les jambes en l'air, sur des étriers, elle ignore le placenta, à moins que, artificiellement, on vienne lui montrer, mais elle l'ignore. Lorsqu'elle est verticale, elle le voit, elle le touche, elle l'interroge, elle se demande ce que c'est, elle le connaît, et on cesse d'oublier le placenta. Si le père est présent, il s'interroge aussi sur le placenta.
C'est un mystère pour l'homme, et j'avais vraiment aucune idée là-dessus. Et lorsque ma femme a été enceinte, nous sommes allés faire des cours de préparation à la maternité. Et là, j'ai un peu appris ce qu'était le placenta, et d'autant plus que j'ai considéré que j'étais co-créateur du placenta, puisque le placenta est fabriqué par les mêmes cellules que l'enfant, c'est ce que j'ai appris là-bas. Et comme co-créateur du placenta, j'ai voulu avoir plus d'informations sur le placenta. Au tout début, j'ai pensé que c'était simplement un emballage qui servait de protection. Après, ce placenta, lors de la naissance, n'est plus qu'acheté, il ne sert plus à rien. À force de faire ces cours de préparation à la maternité, je me suis rendu compte que le placenta n'était pas, en fait, obligatoirement quelque chose à acheter, même si ça servait d'emballage à l'enfant. Quand mon fils est né, j'ai vu le placenta, mais j'avais d'abord plus d'intérêt pour mon fils, puisque je lui donnais un bain, je m'en suis occupé, ma femme étant un peu fatiguée. Alors j'ai vu le placenta, qui était une espèce de truc sanguignolant, et comme ma femme l'avait souhaité, puis peut-être un petit peu moi aussi, j'ai demandé à ce qu'il soit conservé, et je l'ai vu passer dans un emballage de sac poubelle à peu près, et j'ai demandé vivement à ce qu'il soit maintenu au frigidaire jusqu'à ce que nous puissions le récupérer. Pourquoi ne l'aurait-on pas gardé? Parce que, en fait, le placenta, ça appartient aussi à mon fils, puisque c'est fait en même temps, d'une part. Et puis, nous n'avions aucune raison de le laisser, ce placenta, parce que on apprend que c'est très souvent récupéré par des laboratoires médicaux qui en font des produits de beauté. Et puis même, dans la maternité où nous étions, il y avait une infirmière qui prenait les placentas et qui s'en servait pour faire pousser des tomates, qui devenaient d'énormes tomates que personne ne voulait manger ensuite. Parce que le placenta étant considéré comme un déchet, et d'origine humaine quand même, manger ces tomates, pour certaines personnes, c'était manger un peu de la chair humaine. Da kommer tre vandringsmenn på vegen. Byshandel kokar kettelen full. Da kommer tre vandringsmenn på vegen.
Den ene aksa held, den andre også blind, den tredje siger alt ingenting. Bysan lul koka kittelen full, da blæser tre vinder på haven. Bysan lul koka kittelen full, da blæser tre vinder på haven. På Storås igen, på lille Skagerrak, og langt op i botniska viken. Bysan lul koka kittelen full, på himlen vandrer tre stjerner. Bysan lul koka kittelen full, på himlen vandrer tre stjerner. Den ene er så hvid, den andre er så rød, den tredje er månen, den gula. Bysan lul koka kittelen full, da segler tre skuter på vägen. Bysan lul koka kittelen full, da blikler tre skuter på vägen. Den første er en bak, den andre er en bring, den tredje har så trasiga segel.
Alors, que fera-t-on du placenta par la suite? Qu'en ferons-nous? Eh bien, vous savez que beaucoup de mammifères mangent le placenta. J'ai rencontré récemment des Britanniques de la BBC qui venaient de filmer une naissance chez un chimpanzé à Jersey. Eh bien, la femelle a mangé le placenta, donc des primates, pas tellement mignons, et mangeait même la paille qui contenait du sang. Donc on peut interpréter ça de plusieurs façons. On peut penser que manger le placenta, c'est une façon de ne pas attirer les prédateurs en mangeant tout ce qui est sanglant en même temps. Et puis on peut penser aussi que mâcher du placenta, c'est faire pénétrer par voie muqueuse un certain nombre d'hormones qui certainement jouent un rôle. Certaines femmes chez nous, il y en a 3 ou 4, qui ont demandé à mâcher un peu de placenta. Vous savez que tous les mammifères le font, à part la baleine. Hein. Et on a l'impression que le fait de mâcher un peu de placenta, c'est faire passer par voie muqueuse, par la bouche, des substances qui vont aider à contracter l'utérus, vous voyez, donc qui jouent un rôle physiologique important de protection en contractant l'utérus, en limitant encore l'hémorragie. Vous voyez. Bon, nous n'en sommes pas là, mais c'est arrivé quand même quelques fois. En fait, on ne devrait pas dissocier cette expulsion du placenta du début de l'allaitement, pour des tas de raisons. D'abord, c'est la même hormone, l'ocytocine, qui favorise l'expulsion du placenta et qui ensuite favorisera l'éjection du lait lors de la tétée. Et puis, c'est souvent d'ailleurs lorsque le placenta vient de sortir que nous observons une première tétée. Et dans notre maternité, il est très fréquent que le bébé tète dans l'heure qui suit la naissance, parce que la femme est verticale, parce qu'il y a un contact étroit, et parce que c'est le moment privilégié où s'exprime pour la première fois ce qu'on appelle le réflexe de fouissement, c'est-à-dire ce comportement de recherche que peut avoir le bébé à ce moment-là. Puis il y a un autre lien à faire avec l'allaitement aussi, c'est que ce placenta contient ce qu'on appelle des hormones lactogènes, et c'est peut-être une autre raison d'expliquer que la plupart des femelles, des mammifères, mangent le placenta. Il est possible que cette absorption du placenta favorise ultérieurement la lactation à cause de ce pouvoir hormonal placentaire. Bon, habituellement, ce placenta, on le met tout simplement au congélateur, comme partout. Et vous savez que des laboratoires viennent récupérer ces placentas pour en faire des extraits, utilisés soit dans des laboratoires cosmétiques ou en pharmacie.
Chaque année, 750 000 placentas sortent du ventre des parturientes françaises. Sachant qu'un placenta pèse environ 1 livre, cela fait 375 tonnes de matière première humaine. Loin d'échouer dans les poubelles des maternités, ce pétrole maternel donne lieu à une véritable industrie. 3 sociétés sont spécialisées dans la collecte des placentas. Biorec, collecte organes, et Mérieux. Biorec récolte 50 tonnes de placentas par an. La société entretient une armada de camionnettes qui écument 250 hôpitaux et cliniques. Les placentas sont vendus 2 francs pièce et l'argent est versé soit aux sages-femmes, soit aux œuvres sociales de l'hôpital. En fait, cet argent ne correspond pas au produit d'une vente, mais à un dédommagement du travail de stockage effectué par l'établissement hospitalier. Une loi interdit en effet de commercialiser les morceaux de chair humaine. La société Biorec fournit exclusivement les laboratoires Choé, qui prépare les ampoules injectables d'extrait placentaire. Comme son nom l'indique, la société collecte organes collecte les organes. Elle importe chaque année 200 tonnes de placenta qu'elle fait venir par bateau frigo des États-Unis et du Canada. Dès leur réception, les placentas congelés sont confiés à des ouvriers spécialisés dont le rôle consiste à dépiauter les 10 placentas, à les débarrasser de toute bribe de carton et de paraffine, à vérifier à l'aide d'un détecteur de métaux qu'aucune main négligente n'y a laissé des aiguilles ou des forceps. Une partie des placentas ainsi préparées est livrée à des maisons de cosmétiques, tandis que l'essentiel de la cargaison aboutit dans les laboratoires Mérieux, où ils sont employés dans la recherche médicale. Un responsable de la chambre syndicale de la parfumerie jure, c'est grandieux, que pas une parcelle de placenta humain n'entre dans la composition des produits de beauté, car placenta, ça fait riche, ça nourrit les bébés, alors pourquoi pas la peau ? Mais placenta humain, ce serait la débandade, le dégoût généralisé, l'horreur du viscère trop familier. Mettre sur la figure des femmes ce qui sort du ventre, ce serait comme se soigner en buvant son urine ou sa sueur. Extrait d'un article d'Elisabeth Alexandre paru dans Libération en août 1981.
D'autres fois aussi, ce placenta qui légalement appartient au bébé, ce placenta est porté au laboratoire. Si par exemple on veut s'assurer qu'il n'y a pas une infection quelconque, si on veut faire une culture, rechercher des microbes, des parasites comme la toxoplasmose, il faut dire que quand les laboratoires ne les prenaient pas, on le jetait tout simplement. Hein. Bon, quelquefois certains utilisent le placenta pour l'enterrer et y planter un arbre, c'est poursuivre la vie.
Alors nous voulions le garder, ce placenta. Nous avons eu la chance que nos amis, lors de la naissance d'Antonin, nous donnent un tout petit arbrisseau. Nous avons creusé la terre, mis le placenta et planté l'arbre, qui en fait est l'arbre de notre fils. Et c'était pour que cet arbre pousse davantage, devienne plus grand et représente exactement ce que devient notre fils.
Dans chaque société, bien sûr, il y a un rituel qui touche au placenta. Mais on doit dire que, avant cette habitude d'utiliser le placenta en milieu pharmaceutique, personne ne se demandait ce que devenait le placenta. Hein. Et c'est une question qui réapparaît maintenant, à une époque où, justement, les ethnologues, certains milieux obstétricaux, certains psychanalystes attirent de nouveau l'attention sur cet organe qui, comme on le dit habituellement, appartient au bébé, oui, mais qui, faut pas l'oublier, est quand même mangé par la plupart des femelles après la naissance. Oui. Alors, la notion de propriété dans ce cas-là, c'est quelque chose de bien flou.
Le placenta devait être traité très soigneusement et en tout cas jamais jeté n'importe où parce qu'il y avait une double crainte qui était qu'il puisse être éventuellement dévoré par un animal et dans ce cas l'enfant aurait eu un destin tout à fait funeste ou bien que des gens mal intentionnés, des sorciers, des sorcières s'en emparent et nuisent également à l'enfant en utilisant des morceaux de ce placenta. Donc il était important que l'accouchement, une fois terminé, on lui réserve une place prescrite, différente bien sûr selon les régions de l'Europe. Mais on peut voir en tout cas qu'il était le plus souvent enterré ou jeté dans l'eau. Mais il faut, disons, au moins remarquer que le placenta des animaux domestiques, du bétail en particulier, reçoit lui un traitement qui est en relation avec l'air, il semble qu'il soit accroché dans les arbres et qu'il sèche comme ça petit à petit. Et l'intention sous-jacente, c'était que le petit animal profitait au fur et à mesure que son placenta dépérissait. Disons, dans les cas où il était enterré en général dans un espace domestique ou dans un espace proche de la maison. Parfois dans la maison même, c'est-à-dire qu'on pouvait déceler un carreau du sol, creuser un petit peu en dessous et receler ce carreau. Ou bien enterrer dans un espace qui est encore couvert par, en quelque sorte, le toit de l'habitation, dans un hangar. Ou encore dans le verger, sous un arbre fruitier. En France, on trouve assez souvent la prescription de l'enterrer sous un rosier. L'enfant aura belle voix ou beau teint selon les cas. D'autre part, il existe dans le midi de la France des prescriptions où cet arbre choisi pour enterrer le placenta, c'est un figuier. On disait expressément que ce traitement était destiné à assurer une bonne lactation à la mère, donc un bon allaitement pour l'enfant.
À la fin du 19e siècle, on trouve dans un ouvrage de Giuseppe Bellucci sur le placenta dans la tradition italienne, des rites concernant le placenta et l'eau.
L'auteur de ce long article était un ingénieur qui avait été appelé dans un petit village parce que le puits du village était pollué. Il s'est mis à curer ce puits. Et au fond, il a trouvé une assez grande quantité de petites marmites de terre, dont certaines étaient encore couvertes d'une toile ficelée, mais dont certaines avaient perdu cette toile, et à l'intérieur, il y avait des placentas en décomposition. Intrigué par cette pratique dont il n'avait jamais entendu parler, il a interrogé les villageois, et en particulier les femmes, qui, très naturellement, lui ont répondu qu'il fallait mettre le placenta après l'accouchement dans un endroit le plus humide possible, l'idéal étant une eau vive, mais qui n'entraîne pas le placenta au loin. Donc, un puits alimenté par une source d'eau vive était idéal, effectivement. Et dans son enquête ultérieure, il s'est aperçu que ça pouvait être des creux de rivière, ou bien si il n'y avait rien à proximité de tel, on l'enterrait dans un terrain qui restait constamment humide. L'intention de cette pratique, c'est d'assurer une bonne lactation à la mère. Mais dans son enquête ultérieure, il a pu obtenir des détails beaucoup plus précis. On gardait à la maison le placenta pendant 3 jours. On le plaçait en général sous le lit de la couchée. Et cette proximité permettait au lait de monter. Bon, quelquefois en italien, on dit que le lait descend. La métaphore est inverse qu'en français. Si tout se passait bien, si effectivement, pendant ce temps-là, l'enfant n'était pas nourri au sein, ça c'était aussi une pratique tout à fait courante. Si le lait montait normalement, c'est seulement à ce moment-là qu'on allait placer ce placenta dans de l'eau vive. Et tant qu'il y était maintenu, la mère avait un lait abondant, donc nourrissait bien son enfant. Si, précisément, le lait ne venait pas, ne montait pas, alors il y avait une médication héroïque qui était de faire ingurgiter à la mère un bouillon dans lequel on avait mis un petit morceau du placenta, mais on lui faisait prendre à son insu. En fait, cette médication devait faire son effet et la femme, très bientôt, devait avoir du lait. Et ensuite, donc, on traitait le placenta de cette manière traditionnelle. Toujours dans ce document italien qui est absolument passionnant, il y avait le cas où la femme accouchait d'un enfant mort-né. Alors à ce moment-là, il était nécessaire, non pas de lui faire monter le lait, mais de le lui faire passer. La procédure était exactement symétrique et inverse, c'est-à-dire que à ce moment-là, on n'avait pas coupé le cordon ombilical de l'enfant quand on s'apercevait qu'il naissait mort. On attendait l'expulsion du placenta et l'enfant étant toujours relié à son placenta, on mettait ce placenta dans une poêle sur le feu, on le faisait griller, on tâchait de le faire sécher au lieu de le maintenir dans un milieu humide et en même temps on disait que retourne l'âme à son corps. Ce qui implique l'idée sous-jacente que l'âme de l'enfant est dans son placenta. Le cordon ombilical, lui aussi, doit être traité de façon soigneuse. La crainte est la même que pour le placenta, c'est-à-dire qu'il ne doit pas tomber sous la dent d'un animal, parce que du même coup, quelquefois on dit que l'enfant aurait tous les défauts de cet animal. Bien entendu, là aussi, il ne doit pas tomber entre les mains de gens qui auraient des intentions malveillantes à l'égard de l'enfant. Il semble que dans les sociétés traditionnelles européennes, le cordon ombilical est plus à faire avec l'enfant et le placenta plus à faire avec la mère. C'est quelque chose qui peut être démontré complètement. Le placenta a quelque chose quand même à voir avec l'enfant puisqu'il assure un bon allaitement. Mais quand même, disons que l'idéologie européenne tire peut-être un petit peu plus le placenta du côté de l'idée de fertilité, de fécondité. Il peut aider une femme stérile à avoir des enfants. Cette notion que le placenta est un double de l'enfant apparaît difficilement. Il affleure de temps à autre. Il n'existe qu'un seul texte, à ma connaissance, qui est un texte gallois, où il semble vraiment que d'un placenta naisse un autre enfant, qui est le jumeau du premier-né.
Math, fils de Mathonwy, était maître de Gwynnef. À cette époque, Math ne pouvait vivre qu'à la condition que ses deux pieds reposassent dans le giron d'une vierge, à moins toutefois que le tumulte de la guerre ne s'y opposât. « Homme, dit Math, quelle pucelle prendrai-je ?»« Seigneur, répondit Gwydion, rien de plus facile. Ranroth, fille de Don, ta nièce. » La fille de ta sœur. On alla la lui chercher. La jeune fille entra. Jeune fille, dit Math, es-tu vierge ? Pas autre chose, seigneur, répondit-elle à ma connaissance. Alors il prit sa baguette et la courba. Passe par-dessus, dit-il, et si tu es vierge, je le reconnaîtrai. Elle fit un pas par-dessus la baguette enchantée, et en même temps, elle laissa après elle un enfant blond et fort. Au cri de l'enfant, elle chercha la porte et aussitôt, elle laissa encore quelque chose après elle, autre chose de petit. Mais avant que personne ne pût l'apercevoir une seconde fois, Gwydion saisit cette chose, l'enroula dans un manteau de brocart et la cacha au fond d'un coffre au pied de son lit. Eh bien, dit Math, fils de Matonwy, en parlant de l'enfant blond, je vais faire baptiser celui-ci et je lui donnerai le nom de Dylan. On le baptisa. À peine fut-il baptisé qu'il se dirigea vers la mer. Aussitôt qu'il y entra, sur le champ, il en prit la nature et devint aussi bon nageur que le plus rapide des poissons. Aussi l'appela-t-on Dylan Elton, Dylan, fils de la vague. Jamais vague ne se brisa sous lui. Le coup qui causa sa mort partit de la main de Govanon, son oncle, et ce fut un des trois coups funestes. Comme Gwydion était un jour au lit, mais éveillé, il entendit des cris dans le coffre qui était au pied de son lit. Ils étaient tout juste assez forts pour être entendus de lui. Il se leva précipitamment et ouvrit le coffre. Il aperçut un petit garçon remuant les bras du milieu du manteau et le rejetant. Il prit l'enfant dans ses bras, se rendit avec lui en ville, dans un endroit où il savait trouver une femme pouvant donner le sein, et fit marcher avec elle pour nourrir l'enfant. On le nourrit une année. Au bout de l'année, il était d'une taille qui eût paru forte même pour un enfant de 2 ans. Au bout de la seconde année, c'était un grand enfant, capable d'aller tout seul à la cour.
Maman est nouveau. Maman est nouveau.
En revanche, il y a des mythes amérindiens de l'Amérique du Nord qui racontent très clairement qu'un père a jeté négligemment, sans le traiter comme il faut, le placenta de son enfant. La mère est morte en couche. Il élève donc seul cet enfant et il s'aperçoit un jour que ce fils qu'il laisse pour aller chasser joue avec un autre enfant. Il réussit, c'est un enfant qui paraît très sauvage, il réussit à l'attraper par surprise. Cet enfant se débat et dit qu'il ne veut pas rester avec lui. Et en fait, il est son père, mais il l'a jeté, il ne s'est pas occupé de lui. C'est donc un enfant qui est né du placenta, jeté sans souci de son sort. Dans certaines conditions, dans l'imaginaire, disons, le placenta, s'il subit une nouvelle gestation, pourrait devenir lui-même un enfant. Mais dans la réalité, c'est quelque chose qui est promis à la décomposition, à la pourriture, donc à la mort. Cette décomposition, par exemple dans la société traditionnelle italienne, on tâchait qu'elle dure le plus longtemps possible. Ça assurait du même coup... Bon, il faut dire la survie de l'enfant, parce que dans cette société traditionnelle, l'allaitement artificiel était très difficile à assurer. Le nouveau-né était entièrement tributaire pendant plusieurs mois pour sa survie du lait de sa mère. Cette notion du placenta comme un double de l'enfant, mais un double qui n'est pas venu à terme, qui est comme une fausse couche, donc qui serait du côté de la mort, est peut-être à corriger... Bon, légèrement dans la mesure où cette mort qui passe donc par putréfaction du placenta est une mort qui est inscrite dans un cycle qui ramène à la vie. Dans la mesure où, s'il est enterré, il est comme des graines qu'on a mis dans la terre et qui apportera une certaine forme de fécondité ou de fertilité. D'autre part, je crois qu'il faudrait replacer le placenta dans cet ensemble où il y a une autre annexe de la naissance qui est traité avec beaucoup de soin et qui est le cordon ombilical, mais il s'agit de la partie qui est restée pendant quelques jours attachée au corps de l'enfant et qui se dessèche et tombe, mais qui est toujours gardée avec beaucoup de soin par la mère, dans la mesure où le lien avec la vie de l'enfant est très étroit à ce moment-là, sans doute beaucoup plus qu'avec le placenta. Et peut-être que là, il y aurait une opposition à retrouver entre ce cordon qui est desséché et qui donc, du même coup, peut être conservé, de même que le morceau de membrane qui reste sur la tête de l'enfant, dans cette occurrence rare, où il naît coiffé, comme on le dit en français, cette membrane, ce morceau de membrane peut être également conservé puisqu'elle se dessèche. Alors qu'au contraire, le placenta, lui, est promis à la pourriture. Donc le lien avec ce morceau de cordon ombilical que tout enfant peut garder et posséder est très étroit et en particulier a quelque chose à voir avec son intelligence, son adresse ultérieure, son habileté. Et il existait en France un petit rite de passage que l'enfant avait à subir en général vers 7 ans. On lui présentait son cordon ombilical et il devait en dénouer les nœuds. Et s'il y réussissait, c'était une preuve de son intelligence, de son habileté, de ses capacités de réussite dans la vie. C'était un enfant qui, je crois, avait à la fois su conserver son lien à la mère, qui est un lien de protection, mais qui a su aussi s'en détacher pour devenir une personne autonome. Le fait que cette partie du cordon ombilical soit en rapport très clair, bon, avec donc l'intelligence, l'habileté de l'enfant, ressort d'un document folklorique français, le maître d'école, quand l'enfant ne savait pas sa leçon, lui demandait « Comment, mais tu n'as pas ton cordon dans ta poche ?» Parce qu'en effet, la mère, quand l'enfant commençait à aller à l'école, lui cousait dans la doublure de ses vêtements ou lui mettait dans sa poche le cordon, parce que là aussi, il s'agissait à la fois d'une protection qu'elle continuait à assurer sur lui par l'intermédiaire de ce qui, pendant sa vie intra-utérine, le reliait à elle. Et en même temps, il en était détaché, c'est-à-dire qu'il pouvait devenir indépendant, autonome, donc un enfant capable de se débrouiller seul dans la vie.
Jadis, notre nature n'était pas ce qu'elle est à présent. Elle était bien différente. C'était l'espèce androgyne. Chaque homme était dans son ensemble de forme ronde, avec un dos et des flancs arrondis, quatre mains, autant de jambes, deux visages tout à fait pareils sur un cou rond, et sur ces deux visages opposés, une seule tête, quatre oreilles, deux organes de la génération et tout le reste à l'avenant. Il marchait droit comme à présent, dans le sens qu'il voulait, et quand il se mettait à courir, il faisait comme les saltimbanques qui tournent en cercle en lançant leurs jambes en l'air. Ils attaquèrent les dieux. Alors, Zeus délibéra sur le parti à prendre. Enfin, ayant trouvé non sans peine un expédient, il prit la parole. « Je crois, dit-il, tenir le moyen de conserver les hommes tout en mettant un terme à leur licence. C'est de les rendre plus faibles. Je vais immédiatement les couper en deux, l'un après l'autre. » Ayant ainsi parlé, il coupa les hommes en deux, comme on coupe des alizes pour les sécher ou comme on coupe un œuf avec un cheveu. Chaque fois qu'il en avait coupé un, il ordonnait à Apollon de retourner le visage et la moitié du cou du côté de la coupure, afin qu'à la vue de son sectionnement, l'homme devint plus modeste. Apollon retournait donc le visage, et ramassant de tous les côtés la peau sur ce qu'on appelle à présent le ventre, il ne laissait qu'un orifice et liait la peau au milieu du ventre. C'est ce qu'on appelle le nombril. Puis il polissait la plupart des plis. Mais il laissait ceux qui sont au ventre même et au nombril pour être un souvenir de l'antique châtiment. Or, quand le corps eut été ainsi divisé, chacun regrettant sa moitié, allait vers l'autre, dans le désir de s'unir à elle. C'est de ce moment que date l'amour inné des humains, les uns pour les autres. L'amour recompose l'antique nature, s'efforce de fondre deux êtres en un seul et de guérir la nature humaine. Le banquet, Platon.
Ipne pupernis tamuro alla paracoto tu micro micro su todo so magalo faramuto magalo sam si lo vuolo. Isius anci parisi, e glori tu na plonunde, tanatoli che visi. Noni, 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 noni.
C'est ma vie, c'est ma chair, hein. L'enfant, c'est une façon de penser l'enfant comme étant une partie du corps de la mère. C'est donc dans un mythe confusif, parce que l'enfant n'est pas une partie du corps de la mère. Il est le fruit d'une relation. C'est à partir du moment où la cellule germinale paternelle et la cellule germinale maternelle se sont unies, c'est-à-dire à partir du moment où l'apport de toutes ces générations, de ces milliards d'humains qui ont existé avant nous, de ces milliards d'orgasmes qui ont été indispensables pour que, à un moment donné, en 1982, un enfant puisse naître. On voit trop souvent la naissance comme une fabrication par le corps maternel. Or, précisément, cette façon de ne penser l'origine de l'enfant que comme faisant partie du corps maternel est un petit bourgeonnement à l'intérieur. Quand j'étais petit ou petit, j'étais confondu avec ma mère. Ça, c'est le fantasme de tous les humains, c'est le fantasme unaire. Or, précisément, le placenta vient bien nous montrer qu'il y a une barrière entre le corps de la mère et le corps de l'enfant. Ce n'est pas le même groupe sanguin. L'enfant a son groupe sanguin à lui. Le placenta, c'est une barrière. Et c'est précisément parce qu'il fait barrière dans ce fantasme unaire qu'on veut l'éliminer et qu'on n'en parle pas. Regardez comme on ne le montre pas aux mères. Alors que c'est le premier temps, lieu dans lequel nous avons été contenus, lavé ou pas, on peut montrer cet espace des membranes, hein, insérées sur le pourtour du placenta à tous les parents. Or, que fait-on de ce placenta? On l'élimine à la sauvette, comme ça, on le vend au laboratoire pour faire des crèmes aux extraits placentaires. Alors que dans le temps, il avait une fonction bien définie. Nicole Belmont a bien montré comment toutes les parties, soit les os, soit les membranes, soit le cordon, soit le placenta lui-même, avaient un devenir particulier. Alors, si il y a exclusion du placenta, un seul placenta, et on n'en parle pas, on ne veut même pas l'avoir dans les représentations verbales que sont les mots. Alors évidemment, celui, un seul père, n'est même pas représenté. L'affaire de la naissance qui se déroule dans une maternité, pas dans une parentalité ou un lieu de nativité, c'est une affaire de femme. Or, cette non-reconnaissance de la fonction du placenta est liée aussi à la nécessité de la souffrance. Si l'enfant fait partie du corps de la mère, comme ma main fait partie de mon corps, si on me coupe la main, ça me fait mal. Et plus ça me fait mal, plus c'est la preuve que c'est bien ma main, vous voyez, comme je souffre. C'est donc une partie de mon propre corps. Mais d'autre part, si l'enfant est vécu comme une partie du corps de la mère, une fois qu'il est excorporé, alors à ce moment-là, c'est plus la peine de s'en occuper. Un peu comme le placenta est flanqué au fond d'un plat comme ça, et on ne s'en occupe plus, l'enfant est perçu comme un être insensible, aveugle et sourd. Ce qui est la négation de la réalité de tout ce qu'il vit, ou de ce qu'il a vécu. Parce qu'il ne commence pas à vivre à partir du moment où il pousse son premier cri. Il est bien évident que toutes les relations qu'il a menées avec ce monde liquide où la pesanteur est abolie, il en a en lui souvenir. Et nos rêves nous le montrent bien dans tous ces rêves où on flotte, hein, où on plane, où on saute. Et puis alors, la pesanteur est abolie. tout ce souvenir que nos mains conservaient de cette surface lisse, hein, caressante, humide, et pulsatile. Hein, c'est ce placenta animé comme ça de toute cette circulation pulsatile qui est un peu comme la lettre primitive que nos mains viennent palper. Nous avons souvenir de tout ce vécu, c'est engrammé. Tout ce que nous avons entendu est engrammé. On a voulu que la vie ne commence, la vie affective ne commence qu'avec la mise au sein. Quand l'enfant est mis au sein, la libido apparaîtrait. Mais il est évident que bien avant, l'enfant est en relation avec précisément le monde signifiant. Par les paroles, par les sons, l'enfant entend. L'enfant est un mélomane, il retient des mélodies, un tas de choses qui sont enregistrées. Et le deuil du placenta, dont la cicatrice est toujours portée par tous les humains au niveau de l'ombilic, ce deuil du placenta est lié au deuil du premier objet perdu. Comme dit Lacan, l'objet est fondamentalement perdu et irrécupérable, la chose perdue. Alors, nous ne pouvons plus que l'évoquer, mon placenta. Il est invisible pour moi. Il n'est pas présent. Je ne peux plus qu'en parler. Donc, il n'y a plus que des mots qui viendront représenter la chose. Le mot, disait Hegel, est le sacrifice ou le meurtre de la chose. Nous sommes des êtres parlants. Nous nous exprimons et nous ne pouvons plus que tenter de glisser à l'extrême limite de l'être des mots pour récupérer ce territoire ou ce monde perdu. Mais nous savons qu'il est fondamentalement perdu. Nous glissons, nous passons de mot en mot, d'objet en objet, tel le papillon du Parnasse qui allait de fleur en fleur. L'homme est un être désirant. C'est jamais ça, c'est toujours autre chose.
À l'origine, un œuf clos où s'organisent les principes de l'eau, de la terre, de l'air et du feu. C'est le placenta primordial. Le dieu Amma s'y tient serré à la même place. Il trace en lui les 266 signes qui engendreront la création. Tel est le nombre qui représente le temps de la gestation. Amma geste dans un double placenta deux couples de jumeaux, les nomos, qui, sous la forme fœtale de poissons silures, occupent respectivement le placenta céleste et le placenta terrestre. Telle est la première forme de vie. Les quatre nomos, ceux du haut comme ceux du bas, sont incomplets et attendent pour naître de recevoir leur complément femelle, encore informulé dans la matière placentaire. Tel est le projet de l'être humain qui sera parfait, double et androgyne. Mais l'un des nomos du bas, impatient de posséder avant terme sa jumelle, s'arrache prématurément de l'œuf et emporte avec lui le morceau du placenta d'Amma où, pensait-il, s'élaborait cette jumelle. C'est Ogo, celui qu'Amma transforme pour le punir de sa conduite sacrilège en renard pâle. Désormais, il errera sans parole claire dans la brousse stérile. Il s'épuise dans la quête incessante de cette partie femelle de lui-même, qu'il avait cru dérobée et qui est restée dans le sein du Créateur. L'unité placentaire ainsi rompue, tout l'ordre de la création est perturbé. Son principe même est devenu impur. Telle est la préfiguration des naissances futures. L'enfant naîtra désormais incomplet et prématuré, lié à ce double indifférencié qu'est le placenta. Mais pour purifier ce placenta, souillé par les exactions d'Ogo, le renard, et pour poursuivre la création, l'un des nomos du haut, sacrifie le jumeau direct du renard dans le placenta terrestre. C'est le nomo anagono. Il l'assoit au milieu de son placenta, replie sa verge au-dessus de son cordon et du même coup sépare le sacrifié et de son placenta et de son sexe. Tel est le sens de la coupure ombilicale. Puis le corps du nomo sacrifié est démantelé et projeté dans l'espace, mais il se remembre dans la mare pour donner le premier être humain unisexué. Tel est le moule définitif de l'homme. Sur ce modèle, Amma pétrit avec son propre placenta les ancêtres des hommes. Du cordon ombilical du sacrifié naît le forgeron. De son placenta proprement dit naît le griot. Telle est l'origine des castes.
Placenta. Et sur la terre, le doublet du placenta du sein de Dieu, Amma, dans lequel fut conçue la création de l'univers. Or, ce placenta était double et ses deux parties étaient reliées comme par Amma lui-même. Une figure faite de deux V, dont l'un était inversé et placé en dessous de l'autre, rappelle la formation de ce double placenta, unique et en même temps double. Elle est dite Amma formant deux pointes, c'est-à-dire développant l'espace du monde. Ce partage préfigure aussi les deux éléments qui surgissent à la naissance d'un être humain, à savoir l'enfant et son placenta. Cette double représentation concerne ce qui se passe biologiquement au moment de la formation du fœtus, à savoir une division entre l'enveloppe, dite iguro, nid de l'enfant, qui est le sac placentaire, et le placenta lui-même, qui est la galette. Le traitement du placenta chez les Ewe, les Nago, les Yoruba, les Gourmanche, les Talensi, les Herero de Nambi et de Tanzanie, les gens de Tanzanie et du Kenya sont presque parallèles. C'est-à-dire que toujours cet organe est traité comme s'il était aussi important que l'enfant qui vient de naître. Et je dirais même encore plus important dans une certaine mesure, puisqu'il est considéré, du moins chez tous les gens qui relèvent du mandé, comme immortel, jamais impur et toujours vivant. Chez les Dogons, par exemple, tant qu'une femme n'a pas expulsé le placenta, on ne dit pas qu'elle a accouché et on ne prévient pas le père. On dit « on a eu l'enfant, on n'a pas eu encore son frère », car le placenta est considéré comme le jumeau de l'enfant. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs, étant donné que nous savons exactement comment ça se passe obstétriquement. Lorsqu'il a été expulsé, le cordon ombilical est coupé au rasoir ou au couteau par l'une des matrones. Ces deux parties adhérentes sont déposées dans une poterie que l'on place dans la cour, sous le fumier constitué de tiges de mil qui restent là à pourrir. Une pierre plate la recouvre. La poterie est assimilée à une mare. La pierre plate qui la recouvre, dite pierre du nomo, ou nomo, c'est-à-dire au géniteur mythique de l'humanité, qui y séjourne sous la forme d'un poisson mythique. La couchée procède à ses ablutions matinales sur cette pierre et y lave également le nouveau-né, ceci durant 7 semaines. La poterie qui reçoit théoriquement l'eau est abandonnée en ce lieu et finit par se casser. Laissée pendant 7 semaines, 7 étant un nombre affecté à la multiplication de la parole, le placenta dans l'eau de la mare, c'est-à-dire dans la poterie, l'abandonner sous le fumier qui contient la force vitale des céréales, revient à le maintenir indéfiniment vivant. Très souvent, les auteurs n'ont parlé que du cordon ombilical. Or, le cordon ombilical est en deux parties, n'est-ce pas ? Il y a une partie qui reste à l'enfant et l'autre qui reste au placenta. Et c'est ça qui constitue, à mon avis, la gémelléité. Pourquoi ? Si vous voulez, on le retrouve déjà dans le mythe, beaucoup plus tard, dans la mythologie, en particulier Dogon. Le forgeron est considéré comme ayant été fait avec le reste du placenta du géniteur mythique des hommes, après un sacrifice, et le cordon attaché à ce placenta. Voilà déjà une gémelléité. Il est réellement considéré comme le jumeau. Et c'est un être normal. Mais que le placenta soit considéré comme le jumeau du nouveau-né, c'est absolument général aussi. Tant que le placenta n'est pas sorti, d'abord on ne coupe pas le cordon. Jamais. Alors que chez nous, c'est le contraire, n'est-ce pas ? Effectivement, on sait très bien qu'il ne faut pas que le placenta qui est détaché devienne toxique pour l'enfant, donc il faut le couper. Mais on le coupe en Afrique jamais avant la sortie du placenta. Et après, à ce moment-là, vous avez deux jumeaux. Le placenta, je viens de le dire, est considéré comme vivant toujours. Il est beaucoup plus immortel que l'enfant qui vient de naître. L'enfant ne l'est pas. Le placenta est considéré comme ça. Et toutes les représentations, les usages qu'on fait de ces représentations le prouve. Le placenta chez les Dogons est dit « mais » et un mot qui est associé comme étymologiquement par eux, ce qui est tout à fait particulier, je ne dis pas que c'est une vérité linguistique, ça c'est une autre affaire, qui est « mené », c'est la parenté par le placenta. Et ceci est le nom de la parenté totémique, c'est-à-dire que les gens qui se réfèrent au même clan totémique, c'est-à-dire aux mêmes catégories d'êtres et d'objets, c'est ça le clan, l'interdit totémique, etc., le clan, les lignages qui font partie de ce clan, la parenté est dite, elle est plus large que la parenté purement lignagière, elle est dite parenté par le placenta. On a déjà une utilisation, si vous voulez, du symbolisme du placenta ou de sa sacralisation et surtout de sa valeur génétique, n'est-ce pas ? On est membre d'une famille, mais on est membre d'un groupe rattaché au placenta. Et ce groupe est plus large que la famille stricto sensu. Il y a un troisième mot parallèle qui se prononce probablement avec des tons différents, qui est purifié. Mené, c'est la même chose que la parenté par le placenta. C'est essentiellement une forme de purification particulière chez les Dogons. Ces trois termes et leur sens se rattachent l'un à l'autre. On peut dire aussi que dans la circoncision, on retrouvera quelque chose de tout à fait pertinent qui alors, si vous voulez, ne parle pas directement du placenta, mais rappelle cet épisode fondamental de la naissance. Quand on circoncit un petit garçon, on met sur sa verge une petite tige d'herbe ou de plante et on tranche en même temps le prépuce et la tige. Et, disent, c'est la même chose chez les Bambara, les Africains qui ont fait cette opération, c'est comme si on tranchait à nouveau le cordon ombilical. Donc, c'est une façon de montrer qu'on sépare d'une façon cette fois-ci définitive, puisque le garçon va passer dans le clan vraiment des hommes, il va vraiment devenir un homme. Avant ça, il est complètement androgyne, comme les êtres du début. Il est vraiment considéré comme tel. Quand on va retirer son prépuce, il devient un garçon, un homme. Et il est susceptible de pouvoir se marier. C'est ce qui est dit. Mais on a coupé définitivement, si j'ose dire, par cette seconde coupure, ce fameux cordon ombilical qui le rattachait à travers le placenta à sa mère. Et à partir de ce moment-là, il ne vit plus avec les femmes de sa famille, il vit à part avec les hommes. C'est très net. Quant aux funérailles, c'est encore plus net, si j'ose dire. Parce qu'alors là, le symbolisme est, on peut dire, visible. Le mort est enveloppé dans un linceul, les deux pieds émergents du linceul. C'est pour représenter qu'il a une queue bifide, enroulée ovoïdement, complètement fermée, et il a la forme d'un poisson, c'est-à-dire d'un fœtus. Le fœtus est un poisson, il est dans l'eau. Après ça, on va le mettre sous cet aspect-là, de poisson, dans une caverne, ou chez les Bambara, dans un renfoncement au fond de la tombe, qui est considéré comme le placenta. Enterrer un défunt en Afrique occidentale, c'est le remettre dans son propre placenta de naissance et dans la terre.
Tu n'es pas le fils de la nuit profonde et perfide, noire comme la suie de ta case enfumée. Tu n'es pas le fils de la nuit. Tu es le fils du jour éclatant et clair, le fils de la terre rouge et généreuse, la terre où germent les fruits savoureux. Tu es le fils du jour éclatant et clair. Non, tu n'es pas le fils de la nuit.
L'univers est un grand corps, et c'est aussi un grand corps humain. Et tous les signes d'un individu sont inscrits aussi sur son placenta. C'est d'où le traitement du placenta. Et d'où la gémelléité de l'homme et de son placenta. Il a ses signes liés à sa création et à sa formation d'être vivant dans son placenta. Et c'est là, je le répète, que le nom qu'on lui donne en tout premier lieu et qui restera quelque chose de fermé, qui ne sera pas proféré en public et qui sera connu de l'individu, probablement de son père et de sa mère, et surtout du prêtre Demit qui est le seul à avoir le droit de le lui donner, c'est le nom des signes de son placenta. C'est ça qui est fondamental, c'est un de ces noms, il y en a plusieurs, mais c'est le nom qu'on appelle secret, si vous voulez, le nom interdit. Mais ça veut dire qu'on ne le dit pas. On ne le dit pas parce que c'est un nom qui correspond à la parole intérieure, la parole qui n'est pas orale. Ces signes sont des mots qui ont des noms, mais ces noms n'ont pas été dits. Par conséquent, ils sont antérieurs à ce qu'est le langage. Et c'est comme ça que l'individu est rattaché à travers son placenta à la notion fondamentale de parole. Il est dit que Dieu a créé ces signes avec sa parole, mais sa parole à lui, intérieure, que les hommes n'entendent pas. plus exactement, qui se manifeste autrement. D'où le traitement du placenta et évidemment aussi sa protection. Puisque le fait qu'on soigne le placenta, il ne faut pas l'oublier, est aussi le fait qu'on protège le jumeau de l'enfant, puisque son nom et son signe, ses signes sont dans ce placenta. Par conséquent, tout individu qui voudrait nuire à ce placenta nuirait à l'enfant. Donc le placenta est soigné, enterré ou mis dans la cour familiale comme chez les lobos, ou planté sous un arbre comme dans d'autres, un arbre poussant dessus, empêchant complètement qu'on le traite. Je pense très profondément, je n'en ai pas encore la preuve, mais c'est une hypothèse de travail, c'est que la sorcellerie, les sorciers sont des gens qui, pour une raison que nous ne connaissons pas, ont le sentiment que leur placenta est incomplet. Et cette recherche qu'ils ont en permanence de manger l'âme de quelqu'un, comme on le dit, par exemple dans toute une région de l'Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire ou ailleurs, où cette forme de sorcellerie, d'angoisse d'ailleurs, du sorcier, et ce besoin permanent de remplacement vient d'un manque. Et je me demande si dans les représentations, on ne trouverait pas que ce manque est ontologique, au sens où on peut entendre le mot placenta.
Qu'est-ce que le biya ? Le biya existe différent de la personne. Chaque être humain en a. Les sorciers et les génies opèrent à partir du biya. Dieu leur a donné le pouvoir de voir le biya. Où se trouve le biya de la personne ? Il est contre la personne. Il n'est pas dans le corps de la personne. Le biya ressemble-t-il à la personne ? C'est la personne. Le biya est-il à droite ou à gauche? Il n'est pas d'endroit où il ne se trouve pas. Est-il dans l'ombre du corps? Le biya est contre le corps. Peut-on vivre sans biya? C'est en fait lui qui est vivant. C'est lui la vie de la personne. Tu dis que le biya est la vie. Est-ce que la vie se trouve dans la personne elle-même ou dans son biya? Tous les deux ont la vie, mais si l'une est absente, l'autre ne sert à rien. Alors pourquoi ces deux vies sont-elles séparées? C'est ainsi que nous avons été créés. L'enfant naît avec son biya.
Que le placenta est quelque chose de tellement fondamental qu'il est l'objet de ce traitement. Et on peut voir qu'il est aussi fondamental dans le sens de ce qu'on dit de lui, à savoir qu'il est toujours vivant, immortel, et en permanence, même après son apparente destruction, constructeur. Et ceci, on le voit dans toutes les représentations attachées à la bière de mil. La bière de mil est une bière fabriquée d'une certaine façon avec les grains, et chaque épisode de la fermentation, de la fabrication de la bière de mil, est l'objet de représentations qui lient cette fabrication au sacrifice primordial du jumeau qui a lutté contre le renard et à sa résurrection.
Kamma augmente les choses sur votre tête. Celui qui n'a pas de femme, Kamma lui donne une femme. Celui qui a une femme mais pas d'enfant, Kamma lui donne un enfant. Il vous dit merci. Il vous dit salut de brousse. Il vous dit salut de fatigue. Il vous dit salut pour la douleur des reins. Le Hogon a fait sortir les graines. Il a dit qu'on les mette dans la main des femmes. Les femmes ont puisé de l'eau, elles ont fait tremper le grain, elles l'ont retourné. Le troisième jour, la germination est sortie. Elles l'ont étalé au soleil, elles l'ont fait sécher, elles ont écrasé le grain et préparé la bière. Le troisième jour est arrivé. On a eu ainsi le jour fixé. Le Hogon a dit à la femme du patriarche: Kamma, la face restée au coin de la grosse poterie. Encore une fois, Kamma, la face restée au coin de la grosse poterie.
La bière est cuite et on va mettre le support à ferment. Tout support à ferment est le symbole du placenta, organe qui permet pendant la gestation l'alimentation et l'oxygénation du fœtus. Amma a fait gester l'univers dans son propre sang, sous l'action de son propre placenta où étaient inscrits les signes qui préfiguraient sa création. Le support à ferment utilisé pour les bières du Sigi, dit bonnet de chef, représente le placenta d'Amma. Le mettre dans le liquide provoque sa fermentation, lui donne une vie nouvelle. Elle symbolise celle qui fut octroyée au corps reconstitué d'une homo. La vie des êtres et des choses se développe comme sous l'effet d'une fermentation. C'est lorsque la bière est fermentée, c'est-à-dire lorsque le homo a été ressuscité, qu'on a le jour fixé, c'est-à-dire le jour de la cérémonie où on doit boire la bière. La fabrication de la bière est récitée et dans les textes du Sigi, ce qui prouve l'importance de la chose. Il y a des formes différentes de supports à ferment qui sont utilisés avec naturellement des grains différents suivant le but poursuivi et la cérémonie auquel il correspond, mais aussi au symbolisme de ces formes. Et par exemple, la forme dite bonnet, qui est une forme ronde à quatre pompons, qui représente les quatre éléments et les quatre points cardinaux, représente le placenta total d'Amma, qui est comme une boule à un sein, etc. Une matrice. En revanche, le placenta nat représente le morceau arraché par le renard. C'est plat et incomplet, ça n'est plus rond. C'est comme la terre. La terre est toujours représentée symboliquement dans les figures par un carré, alors que le ciel est représenté par un cercle. L'estrade, c'est un deuxième morceau. Il a volé deux fois un petit morceau et qui a servi dans des conditions tout à fait spéciales qui sont racontées dans le mythe. Le support à ferment en épi de mil, qui a une forme d'épi, ça c'est au contraire la résurrection. C'est la graine qui va sortir. C'est le placenta d'une moule, c'est-à-dire du jumeau qui a tout réorganisé. Et enfin, les formes en couronne, double, c'est les placentas des jumeaux eux-mêmes, nés. Nous avons toute une chronologie, même au point de vue, si vous voulez, des générations. Tous ces supports afférents, en même temps qu'ils redonnent la vie à la bière, qui est quelque chose de vivant, ont une valeur de purification, puisque on passe de la mort à la vie en buvant cette bière.
Sorti de l'œuf du monde, Hogo transforme le morceau du placenta dérobé en une arche. Il s'élance dans l'obscurité primordiale de l'origine pour poursuivre sa quête. Mais Amma transforme ce placenta volé en une terre humide et sanglante. Toujours dans l'espoir d'y trouver sa jumelle, le renard y creuse 60 trous. Mais pénétrant cette terre, qui n'est autre que sa matière d'origine, il commet le premier inceste.
Le conte 60, de base 60, est le conte dit du placenta. Et le nombre de trous qui fait part le renard dans la terre, qui constitue une sorte d'inceste, puisqu'il rentre dans son propre placenta, c'est-à-dire dans quelque chose qui est associé au sein de sa mère, est de 60. Alors on est passé ensuite au conte dit Bambara de 80, qui est le conte du Nemo. 8 ancêtres. Qui a procréé symboliquement les 4 paires de jumeaux ancêtres de l'humanité, qui ont été formés par Dieu avec son propre placenta, le placenta du ressuscité. Ce conte 80 était utilisé autrefois dans le tissage. Il y avait des bandes de coton qu'on ne faisait qu'avec 80 fils. Le placenta reste vivant, toujours.
Natal, voire prénatal. Et dans certaines circonstances, en particulier pour pouvoir faire un deuil, je pense à certaines mères qui avaient perdu leur enfant et qui n'ont pu faire le deuil de cet enfant que quand elles sont revenues elles-mêmes au vécu ou à un vécu de leur propre naissance. Ce qui ne se fait pas sans angoisse et sans difficulté. D'ailleurs, toute naissance réactive pour la mère comme pour le père, son propre vécu de naissance. C'est une des raisons pour laquelle il y a des pères qu'on décrit comme ça, un peu en père de, en s'en moquant, qui tombent dans les pommes, qui ne peuvent pas voir la vue du sang. C'est parce que ça réveille en eux un vécu de naissance difficile. Ce compagnon obscur des profondeurs pouvons-nous le retrouver et retrouver cette sensation de sécurité que nous avons pu connaître pendant la vie fœtale? On s'aperçoit maintenant que dès que l'enfant bouge, on peut entrer en contact non pas simplement verbal, ça c'est vers le septième mois, mais tactile avec l'enfant. Donc, une légère stimulation tactile et l'enfant répond par un mouvement. Et voilà des parents qui vont apprendre à donner à l'enfant des stimulations tactiles, affectives, verbales, motrices, c'est associé à du plaisir, du côté de l'enfant comme du côté des parents qui jouent avec l'enfant. Hein, un léger appel à 5 mois, comme ça, de la main. Et puis, si je recule ma main, l'enfant continue et se déplace dans le ventre de la mère pour garder au niveau du bas du dos le contact avec cette main ressentie comme sécurisante. On a trop longtemps pensé l'enfant qui poussait comme un chou dans la terre en oubliant que la femme n'est pas du tout la terre et que cet enfant peut entrer en relation avec et son père et sa mère, et qu'il a besoin pour son sentiment d'être bien et d'être bon de toutes ces stimulations confirmantes qu'il obtient dans la relation tactile en particulier. Quand un enfant a étiré son pied, la mère peut être terrorisée par la vue de ce pied qui se manifeste à travers la peau du ventre tendue, mais elle peut y mettre la main et dire « ton petit pied, ah, ton petit pied, ton petit pied », et en jouant avec le pied de l'enfant, la tension motrice diminue progressivement. L'enfant joue avec le corps de ses parents avant la naissance. Et donc après, c'est monté, c'est une sécurité, c'est un plaisir qui est retrouvé. Et l'enfant retrouve alors dans la continuité du plaisir cette relation, même s'il est dans un monde aérien où pour vivre il faut respirer. Mais il a sa sécurité de base qui est réveillée par le toucher et par la voix. Avant la perte du placenta, il y avait déjà un premier objet. Pour moi, la voix est un objet. Le toucher, la relation tactile, hein, c'est déjà l'apparition du premier objet qu'on a trop souvent oublié. Le toucher, le premier organe des sens dans tout le monde animal. Hein, avant l'apparition de l'olfaction, avant l'apparition de la vue, il y a le toucher. C'est l'ancêtre, c'est le plus archaïque en quelque sorte. Alors après, il y a la voix. Au moment de la naissance, après la naissance, il y a la vue. Le regard, c'est un objet. Après, il y a le sein et son substitut. Après, il y aura enfin toute la série des objets tels que Freud a pu les décrire, sein, fesses, pénis, toutes ces parties du corps qui peuvent être imaginairement séparées du corps. Dans la mesure où on affirme que l'enfant sort du corps de sa mère, c'est vrai, il est excorporé, en oubliant que c'est d'abord de ses membranes et de son monde liquide qu'il sort, on confond en quelque sorte la mère et le placenta. Et cette confusion n'est pas innocente, parce qu'à partir de ce moment-là, naître, c'est sortir de l'eau, sous-entendu, de la mère. Or, on va confondre la mère et la femme, et on va dire, à partir de ce moment-là, que tout ce qui est mère et liquide, d'ailleurs dans la langue française, M-E-R-E ou M-E-R, c'est même signifiant, hein, entendre. Donc, comme le mythe ne pense que par opposition couplée, si femme est humide, homme sera sec. De cette série d'oppositions, hein, la femme c'est dedans, l'homme c'est dehors, dehors à l'usine, à la guerre, au café, au combat, n'importe où, mais la femme c'est surtout dedans. Alors dedans l'église, Kirch, dedans la cuisine, Küche, et dedans la maison, les enfants, Kind, hein, ces fameux 3 cas Schopenhauer développait. Qui peut dire l'essence de l'homme et l'essence de la femme? Il n'y a que la biologie qui nous indique que la femme peut être mère. Mais mère et femme, c'est différent. Donc, toute cette répartition de la nécessité de la souffrance, le masochisme féminin, le sadisme masculin, toute cette organisation du monde repose finalement sur un mythe, sur une série de mythes qui sont eux-mêmes organisés à travers une confusion de la naissance en tant que sortie de ce monde qui était le nôtre, le monde liquide. Nous sommes des endotomes, c'est-à-dire que pour vivre, nous avons besoin d'une coupure ou confusion, naissance en tant que sortie de la mer, qui serait notre origine, alors que notre origine, elle ne peut être pensée que par rapport à ce et l'un et l'autre, indispensable à l'origine de la vie. C'est pas ou le père ou la mère, c'est et l'un, le père, et l'autre, la mère, qui sont les représentants indispensables de ces générations.
Tu es né, tu commences ta fable. Grenade encore en feu, tu nous émeus du soleil de ton manifeste. Tu sors, lié à l'entraille par une teinte bleue. Le sang qui meut ton corps, prisonnier du nombril, retourne à ta mère. 4 secondes. Fils et mère. Androgyne, tu es toi. La matinée des autres. C'était Placenta, le compagnon des profondeurs. Une émission de Martine Baude. Texte lu par Roland Ménard. Mixage Claude Massé, Philippe Palares. Assistante Dominique Catrou. Réalisateur Bernard Saxel.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 22 juin 1982 sur France Culture.